Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RDVOIS 107.5. Après ce flash d'information de RFI, nous voilà de retour. 2017 commence comme 2016 s'est terminé, on s'était déjà retrouvés pour se souhaiter la bonne année. Allez, c'est le 1er février, normalement c'est jusqu'à la fin janvier, mais on a encore un peu de temps pour se souhaiter une bonne année, donc bonne année à toutes et à tous. Chères chroniqueuses et chroniqueurs, vous êtes donc sur Radio Diwa, et vous l'avez compris, ce sont les chroniqueuses et chroniqueurs lycéens de CCC, comme c'est ça la classe, c'est le numéro 41. Et ils sont là pour dialoguer avec vous, débattre avec vous, n'hésitez pas à faire appel via le standard. À nous, à eux, et discuter avec eux, on va me redonner le numéro. Liam, notre co-technicien, me le donne avec subtilité et douceur, merci. Donc c'est le 0952 368 531, 0952 368 531. Voici les trois sujets du jour. Et juste après, bien sûr, je présente tous ceux qui sont dans ce studio avec aujourd'hui un invité spécial. Vous allez comprendre pourquoi je dis spécial. Ce n'est pas de l'ancien français, mais c'est plutôt de l'espagnol. Vous allez comprendre en deux minutes. Et oui, en ce moment, on est fou, on fait la fête. Un invité spécial quasiment chaque mois. La dernière fois, c'était Monsieur Barrel, le principal adjoint de la cité scolaire. Et aujourd'hui, vous allez voir qui c'est. Donc trois sujets. On va commencer par le revenu universel. On en a ô combien entendu parler pendant notamment ces primaires à gauche pour les présidentielles. Et figurez-vous, vous suivez l'actualité car vous êtes en direct dans CCC, par définition, vous le savez, c'est Benoît Hamon, celui qui, il n'était pas le seul, mais à ce point-là, défendait et défend toujours, a priori, le revenu universel. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que c'est transférable? Je dis transférable puisque ça existe en Finlande notamment et dans certains autres pays du monde. Est-ce que c'est une utopie? C'est ce qu'on entend depuis quelques semaines de la part de ses détracteurs, bien sûr. Est-ce qu'au contraire, un minimum d'essor qui permet qu'on travaille, qu'on travaille pas, qu'on soit riche ou pauvre? C'est un peu ça le sujet de polémique. On va voir ce que vous en pensez, chers lycéennes et chers lycéens. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ensuite, on parlera de ces périodes de grand froid qui n'a pas duré si longtemps, mais dont les médias ont beaucoup, beaucoup parlé. Et on verra si on est totalement dépendant du nucléaire, parce qu'il a été question pendant ces quelques jours de devoir couper le chauffage ou de se le voir couper d'office, puisque un peu dépendant d'autres pays aussi, alors que très dépendant du nucléaire, en tout cas même à l'intérieur de notre propre sol, sur notre propre sol, je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, de chauffage grâce au nucléaire ou à cause du nucléaire, disent ses détracteurs. Donc au-delà de pour ou contre le nucléaire, parce qu'on est un peu dans une semaine de l'écologie, donc on est raccord par rapport à l'actualité diwaise, est-ce qu'on doit réfléchir, plus qu'on ne le fait, à augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable, notamment par rapport au nucléaire? Et puis enfin, on s'interrogera sur une question quand même capitale, puisque la France était jusqu'à il y a quelques semaines, moi, championne d'Europe quasiment de bébés. Nous étions parmi les Européens à faire le plus de bébés, notamment les Allemands qu'on prend souvent en modèle économique, beaucoup de politique. On faisait la nique aux Allemands depuis longtemps. On faisait plus de bébés. Et bien les derniers chiffres. Oui, on défiait les Allemands, tiède-elle. On faisait beaucoup de bébés. On en fait un peu moins. Alors, est-ce que c'est la faute de la crise? Est-ce que c'est la faute des responsabilités parentales? Enfin, comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est durable selon vous? Bonjour, chère Louise. On va commencer par bonjour. Les filles, en étant toujours très polis, respectueux et galants. On va ensuite continuer par la jeune Enola. Bonjour, Enola.
Bonjour.
Bonjour, tiède-elle. Vous l'avez déjà bonjour. Presque entendu. Il faisait semblant d'apprendre de nouvelles expressions alors qu'il les a déjà entendues. Faire la nique A dans le dictionnaire signifie défier, narguer, et est tout à fait correct, voire soutenu. Mais Thiel, elle aime bien jouer les effarouchés, parfois ça fait partie de sa personnalité.
Parfois.
Et Louise adore ça. Ensuite, nous avons évidemment le jeune Alyosha. Bonjour Alyosha.
Et bonjour à tous.
Nous avons le jeune Jérémy, fidèle
salut,
au poste.
Salut.
Bonjour Jérémy. Marius.
Bonjour.
Qui est parmi les petits nouveaux avec Enola de cette année, et Alyosha aussi d'ailleurs. Nos deux co-techniciens, bonjour Alexandre.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien?
Oui.
Ce bac blanc s'est bien passé?
Très bien.
Car ils sont en plein bac blanc, nos jeunes gens de première. Et puis le jeune Liam, qui lui est un petit seconde.
Bonjour à tous.
Et un petit nouveau, mais un grand technicien, c'est grâce à lui notamment que nous sommes là. Je rappelle que Jérémy, Alexandre et Liam sont nos trois techniciens présents. Et puis, affiche exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes dans le Diwa, dans le cœur de la Drôme profonde. Et bien figurez-vous qu'autour de la table, nous avons la grande chance, le grand privilège d'avoir, tenez-vous bien, un jeune homme qui vient d'où?
El Salvador.
Salvador, quelle ville exactement?
La capitale, San Salvador.
La capitale, d'accord, je savais pas si c'était la capitale, San Salvador. Et oui, 12 heures d'avion, je crois, tu m'as dit.
Oui, plus ou moins, c'est ça.
Et donc ce jeune homme est assistant pour ceux qui apprennent l'espagnol au lycée du Diwa, donc il connaît un certain nombre de gens qui sont autour de la table, qui apprennent l'espagnol eux-mêmes. Et voilà, il voulait entendre parler français beaucoup aujourd'hui, donc il assiste à un cours de français et je lui ai proposé avec plaisir de venir nous rejoindre. Et qu'il n'hésite pas à intervenir, depuis le Salvador, depuis la France en l'occurrence maintenant, mais ce que tu penses de tout ça, revenu universel, élection, on en parlait tout à l'heure en venant ici à pied, tu expliquais que notamment c'était le même principe en termes de minutage très précis, chacun a droit à un temps de parole et pas plus que ça par rapport aux autres candidats. Bienvenue dans les studios de Radio Diwa. Aaron, j'ai pas dit ton prénom.
Bonjour Aaron. Merci et bonjour à tous.
Bonjour à toi. Allez, qui veut commencer donc par le revenu universel, pour ou contre, utopie ou belle idée? Est-ce qu'il va être suivi? La suite nous le dira, en tout cas par ses camarades politiques moyennement. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée? Alors je résume rapidement, 750 €, il y a eu quelques variantes, mais on en est à peu près là, si je dis pas de bêtises, 750 € proposés, alors sur plusieurs années, parce qu'évidemment c'est un budget très lourd, ça va pas se faire du jour au lendemain, proposé à tout Français, quelle que soit son origine sociale, riche, pauvre, classe moyenne, sans travail ou avec un travail. Et l'idée est que quel que soit le statut, qui peut changer d'ailleurs, parce qu'on peut passer, c'est un peu l'idée de celui qui promeut cette idée-là, M. Hamon, on peut passer de période de travail à période de chômage et de raréfaction du travail, en tout cas ça fait partie de sa théorie, eh bien on a droit à 750 € par mois pour vivre de manière décente et se nourrir, se loger au minimum. M. Alyosha, vraie oui. ou mauvaise idée?
Eh bien,
bonne ou mauvaise idée, pardon.
Moi, justement, avec ma classe, on avait fait justement un débat en EMC sur ce même thème. Donc, je pense que je vais reprendre exactement les mêmes termes que j'avais utilisés. C'est-à-dire que le revenu universel, ça peut être bien en un sens parce que ça peut aider des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple les sans-abri ou tout ça. Mais effectivement, certains, je pense, vont en user pour dire « Oh, bah ça va, maintenant j'ai de quoi me payer à manger, peut-être une petite pension pour m'acheter un petit loyer ou un truc comme ça pour un truc pas cher. »
Pension, c'est plutôt pour les retraités, mais enfin bon,
ouais,
un revenu de base,
ouais,
quoi.
Ouais. Mais par contre, pour ceux qui réellement cherchent un travail et qui sont dans la galère, j'ai envie de dire, ça peut être bien, effectivement. Bah, après, il ne faut pas non plus oublier que l'État, c'est l'État qui va payer et donc il va s'endetter encore une fois. Donc, est-ce que c'est bien? Oui et non, en un sens. D'un côté, c'est bien. Voilà, justement pour ceux qui cherchent un travail, d'un côté c'est pas bien parce que l'État va encore s'endetter davantage, et si c'est pour que les impôts augmentent, etc., etc., c'est pas super.
Donc si je comprends bien, quand tu dis certains vont en user, ils vont en abuser, quoi, c'est oui. ça le sous-entendu. Certains. Louise, d'accord ou pas?
Je suis un peu d'accord avec toi, mais quand on fournit de l'argent à des ménages, c'est pas dans un but complètement irréel ou quoi, c'est pour que, enfin, ça part d'une bonne intention de dire on va vous donner de l'argent, comme ça vous pourrez vivre même si vous n'avez pas de travail, mais c'est surtout et aussi ça va pas ruiner l'économie, parce que quand on a plus d'argent, ça incite les personnes à consommer, et du coup c'est ce qu'on voit tout le temps en SES, c'est, ça permet de relancer la croissance, etc., et c'est un bon moyen pour pas tomber dans tout ce qui est dépression.
Donc c'est un pari, etc., de relance de la croissance par le fait que les gens auront un peu d'argent pour consommer, c'est ça?
Ça peut être ça si on est en période de crise ou de récession même. Ça peut être
et à l'inverse, les détracteurs disent que justement on est en période de crise et que c'est peut-être pas une très bonne idée de distribuer plusieurs milliards d'euros.
Oui, mais il faut pas regarder à court terme, il faut regarder plus à long terme.
C'est effectivement ce que dit monsieur Hamon.
Voilà.
Il est plus sur le long terme. Piedel, court terme, long terme?
Le problème du court terme et du long terme avec ce revenu universel, c'est quand même le problème du coût. 300 milliards d'euros par an, aujourd'hui, c'est 75% du budget de l'État. L'État a dépensé, je crois, l'année dernière, 410 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc 300 milliards, c'est énorme. Et ça veut dire que si on n'augmente pas, si on ne fait pas doubler les impôts, il va falloir accroître les déficits et donc la dette publique. Et donc il y a un moment où il faut arrêter de on ne va pas pouvoir s'endetter non plus à mort, parce que c'est 300 milliards par an. Donc au bout de 10 ans, ça fait 3000 milliards d'euros, c'est quand même gigantesque. Donc on ne peut pas non plus se permettre de s'endetter pendant des années, parce qu'il y a un moment où tout simplement on pourra plus rembourser. Et puis surtout, le problème de la dette publique, c'est que ça peut avoir des avantages pour un plan de relance, mais le plan de relance, il faut qu'il soit fait juste après la crise, et là on est la crise de 2008, de 2016, ça fait 10 ans quand même. Donc s'il fallait faire un plan de relance, c'était en 2008, en 2009, ça a été fait en partie, mais maintenant c'est trop tard.
Donc, un des arguments, c'est de récupérer une partie de cet argent sur le CICE, c'est ça, si j'ai bien compris?
Oui, mais
l'argent
attends,
qui a été donné,
oui,
pour faire simple,
sauf que le CICE, c'est 20 milliards d'euros par an. Donc 20 milliards d'euros
c'est
par an,
ça.
C'est pas 300 milliards d'euros par an. Alors
c'est pas le même rapport de grandeur.
Oui, et puis surtout. Enfin bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, il y a d'autres arguments, mais
Louise Trépine.
Voilà, on va faire parler.
Merci, donc,
on est permis de parler d'abord.
Merci,
Thierry,
pour Louise.
Ce que tu dis, c'est vrai pour tout ce qui est crise, etc. Mais justement, en donnant cet argent aux personnes, ça va, ce que je disais, ça va les inciter à consommer et donc à remettre de l'argent dans les caisses de l'État, même si ce ne sera peut-être pas autant que ce qu'il a dépensé au début.
Oui.
Mais si ça marche en Finlande, qui est un pays quand même développé, ça peut peut-être marcher ici.
Alors non, en Finlande, c'est une expérimentation, c'est pas sur toute la population, c'est je crois sur quelques milliers de personnes. Oui, mais d'accord, mais c'est pas pareil de faire une expérimentation sur quelques milliers de personnes sur 66 millions.
Alors il a dit qu'il commençait par les jeunes, hein, de 18 à 25 ans.
Oui, mais d'accord,
c'était
mais enfin
la
à terme,
phase.
Oui, mais à terme, ça va être 66 millions. Donc alors il faut savoir s'il s'intéresse au court terme ou au long terme. Non, mais le problème de la dette publique. Mais le problème de la dette publique, c'est qu'en fait, ça pénalise un peu tout le monde parce que les banques prêtent. En fait, ça fait que les entreprises après ont moins de facilité à ce que les banques leur prêtent, parce que les banques prêtent en priorité à l'État, comme elles savent que c'est sûr et que l'État va rembourser, parce que l'État ne va pas faire faillite demain. Donc elles prêtent en priorité à l'État, et l'argent qu'elles prêtent à l'État, elles ne le prêtent pas aux entreprises et aux ménages. Donc du coup ça pose problème de ce côté-là, et puis du coup elles prêtent à des taux élevés à l'État, ce qui fait que ça fait monter les taux d'intérêt, c'est bénéfique pour personne.
Donc on voit bien que tu n'es pas franchement pour pas dire totalement opposé.
Oui, mais c'est le problème du budget. Après, je sais pas, peut-être que monsieur Hamon a trouvé une solution à ça, mais pour l'instant
Aaron, est-ce qu'il existe dans ton pays, au Salvador, un revenu minimum, un salaire minimum, ou là c'est même pas un salaire d'ailleurs, c'est un revenu pour vivre, se loger, même quand on n'a pas de travail, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent ou pas du tout?
Malheureusement, et je pense que c'est une chose qui existe seulement au pays des premiers mondes. Ok, El Salvador n'existe pas en fait. Ouais. Malheureusement.
Et est-ce qu'il y a un salaire minimum pour ceux qui travaillent? Est-ce qu'il y a
un salaire minimum
garanti?
Non. Seulement pour ceux qui travaillent, on a un salaire minimum, mais il n'y a pas aucun revenu pour ceux qui sont au chômage, par exemple.
Ah, rien du tout pour ceux qui sont au chômage?
Il n'y a pas.
Et comment il faut entre deux périodes de travail? Il faut trouver très vite un autre travail.
Je ne sais pas franchement.
Et il y a un taux de chômage élevé? J'ai
comment?
Aucune idée, au Salvador, il y a un taux de chômage élevé dans ton pays. Il y a beaucoup de chômeurs en pourcentage ou
Oui, il y a un grand pourcentage qui est au chômage malheureusement. Mm-hmm. Mais malheureusement, il n'y a pas aucun revenu. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils font en fait.
D'accord. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée ça? Bon, en France, ça te concerne un peu moins directement, mais... Bien que tu vives en France depuis quelques semaines, du coup. Pour l'instant, c'est pas encore pour les assistants espagnols. Ça viendra peut-être.
Oui, je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui sont au chômage actuellement, et parce qu'il y aurait une façon d'avoir d'argent et pendant la période qu'ils n'ont pas un travail. Mmh. Ok. Mais je pense que ça doit pas être pour tout le monde.
Okay. Selon les revenus. En fonction du revenu que tu as, si tu as déjà beaucoup d'argent, peut-être pas la peine, effectivement, c'est ce que disent ceux qui s'y opposent. Alors, pour préciser aussi, en partie, il y a l'idée aussi de réunir les minima sociaux qui existent déjà. Et dans ces 750 euros, il y aurait déjà de l'argent qui est déjà touché par les gens, l'indemnité de chômage.
Voilà,
en fait.
Parce que
ça serait regroupé.
En fait, le chômage.
Le calcul que tu as fait, Thiedel, je sais pas s'il est pas un peu.
C'est le coût total. C'est le coût total, mais de toute façon, ça va coûter cher.
Parce que
cher.
Dans tous ces milliards dont tu parles, il y en a déjà qui reviennent au chômage.
D'accord, mais je crois que le RSA, ça doit être, je sais pas, 30 ou 40 milliards. Donc, ça enlève pas un problème de coût. Mais en fait, on a déjà un système d'assurance chômage quand même. Quand on est au chômage en France, que c'est l'assurance chômage fait qu'on touche à peu près, je crois que c'est 60% de son ancien salaire, et puis ça doit être un peu plus pour les fonctionnaires, je sais pas, mais donc quand vous êtes au chômage, donc il y a quand même un système de revenus.
Au chômage, les fonctionnaires.
Rarement, oui, c'est vrai. Oui, mais bon, les statuts de la fonction,
il y a plusieurs statuts, bien sûr.
Oui. Donc c'est...
Pardon, vas-y, fini.
Donc du coup, il y a ça pour le chômage, et puis pour ceux qui n'ont jamais travaillé, il y a aussi un RSA qui est un revenu donc qu'on vous verse si vous êtes dans la précarité, et ça c'est normal parce qu'évidemment c'est un revenu pour assister les gens, pour qu'ils aient les moyens de se loger, de se nourrir, etc. Mais ça existe déjà. Mais l'idée du revenu universel, c'est vraiment pour tout le monde.
Alyosha et Louise et Marius. Alors Marius, puis Alyosha. Et au 0952 368 531, pas Marius, lui il est là, il peut s'exprimer, mais vous aussi en direct, d'accord ou pas d'accord avec Thiedel, avec Louise, parce qu'on a bizarrement, une fois de plus, un peu de camp, et incarné par l'une et par l'autre. Si quand même, Louise est plutôt pour, et Tiedel franchement contre moi ça comme ça.
Oui, non mais non mais
parce que ça coûte trop d'argent.
J'ai mis quelques réserves. Non mais il y a pas que ça, mais je
d'accord, on reviendra sur le principe après. Oui. Donc Marius, nous t'écoutons.
Pour moi, outre le problème financier, c'est surtout que je trouve ça un peu mesquin, puisque ça a pour but de qu'il n'y ait aucune pauvreté, d'enlever la pauvreté, d'être mieux classé au niveau de l'Union européenne. Et ensuite, donc je ne sais pas à long terme ce que ça peut donner, mais je trouve que c'est...
Je veux dire que ça truque artificiellement le niveau de vie, c'est ça?
S'il y a un revenu universel, ça veut dire qu'il n'y a plus de pauvres, puisque le seuil de pauvreté serait...
Attends, c'est 750 euros. Hein,
oui.
On ne peut pas acheter trois voitures de marque allemande régulièrement avec des revenus de ce type-là.
Et oui, mais enfin, c'est sûr, on ne peut pas acheter des voitures allemandes avec.
Non, mais c'est
Oui, mais... au moins, ça réduit grandement la pauvreté, si ce n'est pas, ça l'enlève totalement.
Et ouais. C'est un problème, ça?
Je trouve que, enfin,
pour toi, il faut que c'est un problème. Des pauvres, des riches,
non, c'est pas un problème. C'est sûr, c'est bien s'il y a plus de pauvreté, mais c'est un peu, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu mesquin d'utiliser ça pour enlever la pauvreté.
C'est un artifice pour toi.
Voilà, c'est comment cacher la pauvreté pour moi, puisqu'elle existera toujours.
Après, c'est parce que si on met un revenu minimum, et ben du coup, la pauvreté va peut-être plus y en avoir selon les critères qu'on a aujourd'hui, mais j'allais dire que ça réduira les inégalités sociales, mais en fait pas du tout, parce que si on en met aussi pour les riches, ça va juste décaler un petit peu le seuil, et ça va pas forcément tout réduire. On va dire oui, c'est bien, en France il y a plus de pauvreté, mais d'un côté du coup les riches seront toujours plus riches que les pauvres et il y aura un nouveau seuil de pauvreté.
Alors il y aurait des impôts quand même, si j'ai bien compris, donc plus d'impôts, ce qui paraît logique en tout cas dans le système français. Ils toucheraient pas exactement en fait l'équivalent de ceux qui ont vraiment rien. Mais ils auraient droit aussi à cette somme symboliquement, quoi, l'idée soit universelle.
Et en plus, ça risque de faire flamber les prix, parce que on sait que si le pouvoir d'achat augmente, les prix augmentent automatiquement. Donc ça risque.
Pour le passage à l'euro, on n'a absolument pas constaté ça.
Ça serait le nouveau passage à l'euro. Pour le passage à l'euro, non, mais parce que le passage à l'euro, là, le pouvoir d'achat a pas augmenté, parce que j'imagine que les salaires.
Enfin, les prix ont augmenté.
Les prix ont augmenté, mais pas les salaires. Oui, mais je pense que ça risque de créer une augmentation des prix. D'ailleurs, on voit déjà, il y a beaucoup de propriétaires qui louent donc leur bien immobilier et qui surestiment les prix parce que ils comptent sur les aides au logement. Alors là, s'il y a un revenu universel, les prix de l'immobilier, en gros, ils vont dire on va mettre plus 750 euros parce que les gens ont un revenu en plus, donc ils vont pouvoir payer. Mais ça, c'est le problème budgétaire et le problème des prix. Mais moi, je trouve qu'il y a une autre question plus fondamentale qui est posée par Benoît Hamon. Il a raison de la poser. C'est la question du travail, parce qu'il dit
raréfaction du travail.
Voilà, on fait ça parce que il y a raréfaction du travail et il y aura plus de travail. Alors d'abord, on ne sait pas si c'est vrai, parce qu'il a cité pendant le débat une étude qui disait que 47% des emplois seraient détruits par les machines, mais Manuel Valls lui a répondu tout de suite que cette même étude disait aussi que dans 20 ans, on ne connaissait pas, il y avait 50%, ou il y avait aussi un grand pourcentage d'emplois nouveaux qu'on ne connaissait pas encore. Donc pour moi, c'est pas un argument qui est complètement valable.
Après, c'est un peu théorique et contre théorie, d'une certaine manière.
Oui, mais d'accord. Oui. Mais et puis, c'est aussi la question de la valeur du travail. Est-ce qu'on accorde plus de valeur au travail, ou est-ce qu'on est-ce qu'on récompense le travail par de l'argent, ou est-ce que on peut gagner de l'argent comme ça sans en quelque sorte évidemment même les gens qui travaillent auront un revenu universel, mais ce sera un revenu qui du coup tombera du ciel en quelque sorte.
Et pour à l'inverse, si tout le monde paye des impôts, ce qui n'est pas le cas maintenant, parce qu'il y a aussi un peu cette idée-là, je crois, enfin c'est une idée plus générale, mais que tout le monde paye des impôts, même si c'est 5 euros par mois symboliquement, chacun contribue aux hôpitaux, aux écoles.
Je
crois que quasiment un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts, si je
ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas, mais après, il faut faire attention à ces mesures un peu symboliques, parce qu'on a vite fait de créer des histoires pas possibles, tout ça pour lever 1 milliard d'euros d'impôts en plus ou 500 millions.
Après, vous savez, aussi l'idée de certains, c'est le même sujet qu'à moitié, mais qui veulent, contre ce revenu-là ou un type de revenu obligatoire reçu par chacun, faire travailler symboliquement au moins un peu, ne serait-ce que heures.
Non, mais ça,
emplois de service.
Oui, mais là, c'est pas pareil, parce que ça, c'est pour le RSA qui est un revenu d'assistance. Et donc là, évidemment, on assiste des gens qui sont en grande précarité. Mais là, le problème qui est posé, c'est vraiment le problème de la valeur du travail. Parce que monsieur Hamon a l'air de considérer que finalement, le travail, c'est pas. En fait, c'est pas. important, enfin, et de mettre un peu le travail sous le tapis. Et moi, je pense que le travail, c'est pas que, c'est pas une idée que bête et méchante. C'est aussi c'est important pour trouver sa place dans la société, pouvoir s'émanciper, etc. Donc, je pense qu'il faut le valoriser. Et c'est pas en proposant un revenu à tout le monde sans distinction. Qu'on peut le valoriser, parce que du coup on enlève de la valeur au travail quelque part.
Travailler c'est... plus pour gagner oui. plus, c'est pas oui. Travailler moins ou pas.
Oui, pour
tout
gagner
en gagnant
plus.
Un peu quand même.
Oui. Mais non, mais par contre, ça s'applique pas évidemment au RSA et aux revenus d'assistance qui sont évidemment pour les gens qui en ont besoin, qui ne trouvent pas de travail. Évidemment, là, il faut qu'ils puissent être assistés. Ça, c'est.
Alors, est-ce que c'est un rêve de jeunes ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec M. Hamon. Vous êtes jeunes, vous êtes dans cette cible-là, si je peux dire, même si vous votez pas encore, mais bientôt. On a un peu l'impression que c'est peut-être un peu caricatural, mais aussi c'est un peu une affaire de génération. Quoi. Les rêveurs seraient du côté de la jeunesse, mais en même temps, est-ce que c'est pas toujours un peu ça sur ce sujet-là ou sur l'autre ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Et puis les pragmatiques, les réalistes seraient de l'autre génération, de gens responsables. Et après tout, on a souvent entendu qui disait ça, hein, je voudrais un futur désirable qui s'opposait à un futur... Bon, on a entendu du sang et des larmes, d'un autre côté. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est un peu... C'est peut-être, comme souvent, la vérité est dans le juste milieu, mais c'est un peu des combats qui semblent un peu voilà, extrêmes, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Louis.
Oui.
Est-ce que tu as envie d'un futur désirable ? Personne ne peut dire le contraire. C'est un futur désirable, non, on ne va pas dire, on veut un futur tragique. Mais est-ce que pour autant, inventer des choses, c'est par définition irréalisable, utopique ?
Je suis pas totalement pour en fait. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors bon, coup de théâtre. Tiedel a converti.
Non.
En tout cas, convaincu.
Non.
Convaincu, converti, sens idéologique, pas au sens religieux.
Non, mais
converti,
c'est juste que j'ai un peu peur du point de vue social que ce revenu. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui savent pas gérer leur revenu et du coup, un revenu qui serait plus important, ça ferait que les personnes géreraient encore moins leur revenu et se diraient mais c'est bon, j'ai des sous, je peux faire ce que je veux avec et qu'au final. On se rend compte que ce n'est pas la meilleure façon et ce serait peut-être mieux, plutôt que de mettre un revenu minimum comme ça, de mettre des formations gratuites pour les gens qui pourraient accéder à une formation pour savoir gérer leur revenu, comment payer tous les impôts, des trucs qui ne sont pas forcément évidents pour chaque personne, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui n'ont pas fait énormément d'études, qui ne savent peut-être pas comment gérer leur vie active, etc. Et bah justement, leur donner des aides, mais pas avec de l'argent, avec des moyens plutôt... comment on pourrait dire, moyen plutôt qualitatif, je sais pas si on peut dire ça, pour les aider.
Une aide,
une méthodologie, on pourrait dire,
ouais. Méthodologique.
Quelque chose comme
et
Nola,
ça te fait rêver, toi, le revenu universel ?
Je préfère pas parler des... Non, je vais pas m'exprimer sur les jeux. Je laisse couler, je laisse... C'est d'elle parler, vas-y.
Ah, Jérémy, non, mais
Jérémy, Alexandre ? Vous n'avez pas d'avis ?
Si, forcément, j'ai un avis. Moi, je suis de l'avis de Tiedel. Pour une fois, je suis totalement d'accord avec toi, Tiedel. Et c'est vrai que financièrement, je pense que pour l'État, c'est infaisable, sauf si on augmente les impôts qui sont déjà élevés, très élevés depuis la crise. Donc, pour la classe moyenne, forcément, pour la classe la plus pauvre de France, ça serait intéressant. Mais après, pour la classe moyenne qui paye le plus d'impôts, ça serait encore plus difficile. Et... c'est vrai que les riches, avec l'ISF par exemple, les très riches, avec 75% je crois, c'est déjà, il y en a déjà beaucoup qui partent et qui se débrouillent pour pas payer d'impôts. Donc si on leur demande encore plus d'impôts, je suis pas sûr que ça les fasse venir en France et les faire payer. Donc,
oui,
merci,
puis moi, évidemment, bah, je suis d'accord avec Alexandre puisque lui-même est d'accord avec moi. Donc, mais
c'est logique. Jusque-là, je suis.
Mais par rapport à ce que disait Louise, si admettons que l'État n'ait pas de contraintes budgétaires et si Monsieur Hamon tient absolument à dépenser 300 milliards d'euros par an, effectivement, je pense qu'il serait mieux dépensé sur des choses comme disait Louise qualitatives. À ce moment-là, améliorer le service public, la formation, mais ça peut déjà être fait, je pense, parce que on dit souvent, oui, les pays nordiques, ils payent autant d'impôts que nous, donc en France, c'est qu'on ne paye pas trop d'impôts. Oui, sauf que dans les pays nordiques, le service rendu par l'État est quand même d'une qualité souvent supérieure. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être plutôt se poser la question de la qualité que que du revenu. Mais sur la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'idée de l'utopie de jeunes.
C'est bien de répondre à mes questions.
Moi, je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le revenu universel, c'est... en gros, c'est de dévaloriser le travail. Et donc, moi, je rêve pas du tout d'une société où le travail n'est pas de,
non, on a bien compris
de
ça,
valeur. Hein. Donc, du coup, pour moi, non, mais c'est pour ça.
Ton côté,
mais
du valzien coup, ou sarkozyste.
Non, pas pardon, sarkozyste. Faut pas exagérer.
La valeur travail, ça a été quand même largement défendu par Monsieur Sarkozy.
Oui, d'accord. Mais lui, c'était la valeur travail par rapport. La valeur travail par rapport au pouvoir d'achat. Et moi, c'est pas que par rapport au pouvoir d'achat, parce que le travail, c'est évidemment, c'est du pouvoir d'achat, mais c'est aussi
un épanouissement,
l'émancipation. Je sais pas.
Monsieur Valls. Non, mais en toute objectivité. Oui, d'accord. Pour eux, l'idée est que, pas que pour eux, mais dans leur programme, l'idée que, enfin dans leur idéologie, c'est pas un gros mot, que le travail épanouit, développe les êtres humains, oui, les rend plus libres, et puis, fiers d'eux, voilà, oui, etc.
Et puis surtout, mais il y a cette question de l'épanouissement, et puis aussi, que,
libération.
J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié ce que
tu vas retrouver.
Je vais, oui, bon,
Louise va en profiter.
Du coup, ça me fait pas rêver. Voilà.
Quand on dit qu'on compare par rapport aux pays nordiques comme la Finlande, etc., j'ai l'impression que dans les pays nordiques, il y a plus une conscience pour beaucoup plus de choses qu'on a en France. Par exemple, la population est au fait de l'environnement, de tout ce qui est écologique. Il y a énormément de progrès là-bas au niveau écologique. Je ne sais plus, je crois que tu avais vu dans le film sur Demain, enfin qui s'appelait Demain, qu'ils étaient au niveau d'énergie renouvelable, qu'ils étaient presque à 100%, je crois, dans leur pays, et que c'est des pays qui ont une avancée écologique et tout ça énorme. Et du coup, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui est plus importante que chez nous, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire autant de progrès, et qu'en France, on est encore un peu freiné par je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quels éléments, et du coup, c'est comparer la France à des pays aussi avancés que la Finlande, etc., c'est difficile, quoi.
On est un pays conservateur.
C'est parfait. Tu nous as fait la transition sublimissime vers le sujet numéro 2, énergie renouvelable, nucléaire, nous y arrivons. Et puis, chers auditrices et auditeurs, il faut y arriver aussi. 0952 368 531. Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, appelez vos camarades. Vos élèves, pourquoi pas, ou tout simplement ces jeunes participants, les auditeurs, c'est vous de l'autre côté. Et dialoguer avec eux, le deuxième sujet, c'est donc, tu en parlais, énergie renouvelable, nucléaire. En fait, l'idée était de partir du grand froid dont on sort, qui n'a pas non plus duré une éternité, mais il y a eu, une grosse semaine avec des températures très froides, notamment pour ceux peut-être qui viennent d'un peu loin et d'Amérique centrale, c'est ça. Il fait moins froid chez toi. Salvador,
oui,
c'est quoi les températures les plus basses, enfin, ou la température moyenne?
La température moyenne.
Il n'y a pas vraiment d'hiver là-bas.
Non, en fait, la température El Salvador, c'est de 24-25 degrés.
Ah oui, quand même.
Toute l'année, oui. Quand il fait froid,
c'est
20 degrés.
20 degrés,
en fait.
C'est ça, d'accord. Oui, donc là, ça a dû être rude pour toi, c'était difficile là, ces derniers jours.
Oui, bien sûr, évidemment.
La neige, notamment.
Au début, j'étais très, très terrible. J'avais beaucoup froid, mais maintenant, ça va. Okay. Je m'habitue un petit peu.
D'accord. Et tu as trouvé ça beau, la neige?
Mais oui. c'est beau. Et tous les paysages et tout ça, je viens, mais. Et apparemment, je manque mon pays, mais ça va.
Tu vas y retourner avant la fin de l'année? Non, c'est peut-être compliqué. Pour des vacances scolaires, peut-être?
Non, je vais retourner en mai, je pense. Ouais, à la fin
de
mai. Ouais.
D'accord.
C'est ça.
Bon. Bah, tu as des nouvelles par le téléphone. Ça coûte cher peut-être le forfait.
En fait, on se communique
par Internet, Skype et compagnie.
C'est,
oui.
Ça, c'est, plus fo-
oui, oui.
C'est
moins cher.
C'est, ça.
C'est plus économique. Et on voit la tête des gens en plus.
Oui.
C'est formidable. Voilà, alors les nouvelles technologies, de nouveaux métiers peut-être. Ça dépend des
hommes politiques. Comme disait Manuel Valls, de nouveaux emplois dans les années à venir.
Voilà. Ah, ça fait quand même deux fois la première fois je l'y avais un peu invité, mais qu'il cite Monsieur Valls. Alors nous,
c'est vrai.
Alors au cas où ça t'aurait échappé, c'est une information tout à fait objective.
Il a perdu.
Il y a eu 2 millions à peu près de doux rêveurs. Ce n'est que 2 millions sur 66 millions de Français, un peu moins d'électeurs, qui ont quand même voté 58% pour davantage le programme de Monsieur Hamon que celui de Monsieur Valls, qui était un peu. Désavoué sur ce coup-là en tout cas, jusqu'à la prochaine fois peut-être, mais sur sa ligne à lui.
Non, mais ceci étant, après Monsieur Hamon, par contre, il a raison de poser ces questions parce que je trouve que c'est important.
En tout cas, beaucoup de débats. autour de ce qu'il avait lancé lui-même.
Voilà, donc, ça, c'est, donc une, c'est bien, c'est, ça c'est intéressant par contre.
Donc le nucléaire, nous sommes très dépendants de nucléaire, enfin on est essentiellement chauffé, on s'allume si je puis dire, non c'est ambigu ça, on allume la lumière grâce au nucléaire. Pardon, pardon, mais nous sommes en direct, hein, c'est la preuve, c'était ambigu, personne n'allume personne. On allume la lumière dans les pièces et votre vie privée ne nous regarde pas, mais grâce au nucléaire. Alors, il était question déjà dans le programme de M. Hollande de passer, je ne sais pas quel pourcentage, enfin de réduire en tout cas d'un certain nombre de pourcents du nucléaire en France. On ne peut pas dire que, au moment où on parle, ça ne reste pas extrêmement dominant. Il a même été question d'ailleurs d'avoir des coupures à certains moments. C'est déjà arrivé dans d'autres hivers. Celui-là n'est peut-être pas assez rude, ça n'a pas duré assez longtemps pour que ça se passe. Du coup, on doit acheter, même si on a beaucoup de nucléaire chez nous, à d'autres pays. Et paradoxalement, eux sont en train un peu de s'en détacher, mais à l'Allemagne notamment. Paradoxalement, parce que voilà, ils sont en train de laisser tomber, mais ils en revendent quand même pour ce qu'il leur reste, notamment en français. Alors, est-ce que c'est une forme d'indépendance ? Parce que quand même, grosso modo, à peu près toute l'année, sauf période de grand froid, en France, on a de l'énergie. Elle coûte pas trop cher par rapport aux autres pays d'ailleurs, et donc c'est une forme d'indépendance. Ou est-ce qu'à l'inverse, on est tellement que là-dedans, ou à peu près que là-dedans, que bon, d'abord, c'est pas bon pour la planète, on va y venir, semaine de l'écologie, les déchets radioactifs, le traitement des déchets qui se fait sur plusieurs dizaines d'années, il y a des progrès à faire. Et puis voilà, quoi, on est obligé d'acheter en plus de l'énergie aux autres, parfois, dans des cas extrêmes. Oui, Kiedel.
Non, mais juste une petite précision, c'est pas pour donner un avis,
vas-y.
Simplement, je crois que là, si on a eu besoin d'acheter de l'électricité à l'Allemagne, c'est parce qu'on avait ce 5 réacteurs, je crois, qui étaient arrêtés pour cause de maintenance. Donc, en temps normal, ça n'arrive jamais.
Si,
ça.
Si, c'est arrivé de mémoire il y a 3 ou 4 ans lors d'un hiver aussi, qui a duré plus longtemps. Pas beaucoup, mais si, il n'y avait pas de problème de réacteur.
Il y avait raison cette fois-ci. Mais cette fois-ci, oui, voilà, c'est principalement pour ça quand même.
C'est vrai, tu as raison de préciser. Qui est-ce qui levait le doigt ? C'est Enola.
Oui, donc du coup, avec ce que tu viens de dire, ça prouve que la France est quand même dépendante d'une certaine façon, parce qu'on entend ?
Oui.
Ok. Parce qu'elle elle peut créer sa propre énergie, sans avoir besoin de demander vraiment aux autres pays.
Parle bien en face du micro, Enola.
Ah !
Parce qu'après, il y a des auditrices et auditeurs qui me disent « on entend certains un peu plus fort, d'autres pas ». Donc, Liam et Alexandre et Jérémy... pas de sieste. Vigilant jusqu'à 13h.
On est vigilant, on est concentré.
Non, parce qu'apparemment, il y a des ça dépend peut-être un peu de nous, hein, c'est pour ça que je me permettais de rappeler Enola. On entend des gens très forts, d'autres plus doucement à certains moments, voilà, voire à peine pour d'autres. Mais on va régler tout ça, grâce à votre compétence extrême.
On essaye de faire
je sais bien que vous faites au mieux. Enola, vas-y, fais de ton mieux en prenant ça un peu comme une glace et comme si tu suçais une glace. Tu parles devant le micro, comme un Esquimau.
Non, mais c'est bon du coup. Hein. Enfin,
désolé, je lui ai coupé tous ses effets du coup.
Non, mais c'est bon. C'est
alors rappelle-nous, parce que j'étais tellement concentré sur le fait qu'on t'entendait pas. Non, mais je suis pas certain que d'autres t'aient pas entendu. Ce serait bien que les auditeurs nous entendent. Vas-y, répète.
Ok,
répète.
Donc là, c'est bon. Tout le monde m'entend ? Allô, bonjour. Donc du coup, oui, avec ce que vient de dire Tiedel, sur l'exemple qu'on a dû demander à l'Allemagne, c'est que ça prouve que quand même, avec le nucléaire, on est quand même assez indépendant d'une certaine façon, parce qu'on crée notre propre énergie. Et que oui, du coup, il y a un bon côté, mais bon, on verra après le mauvais côté, j'imagine.
Salvador, le nucléaire, pas trop ? Voire pas du tout ?
Non.
Alors comment on se chauffe ? Mais on se chauffe pas, il fait 25 degrés toute l'année. Oui. Suis-je bête ? Enfin quand même, il y a un peu des... Pas du tout.
Pas du tout.
Le concept de radiateur n'existe pas. C'est fascinant pour un Diwa. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de chauffage ?
Non.
Absolument pas. Dans aucune maison.
Absolument
même
pas.
Dans certains endroits du Salvador. Je sais pas, j'ai aucune idée honnêtement. Je suis très mauvais en géographie. Mais, enfin, géographie, je vois vaguement où c'est. Mais en termes de grandeur, c'est grand comment le Salvador ? Par rapport à la France.
La région Rhône-Alpes.
En fait, tous les pays sont plus petits que Paris quand même. Donc,
le pays tout entier
ouais.
Est plus petit que Paris. Ah oui, d'accord, je pense pas que c'était aussi petit que ça. Ah mais oui, mais alors on peut se tenir chaud et aussi, déjà il y a la chaleur naturelle et si en plus, je sais pas quelle est la densité au mètre carré de population.
Au mètre carré, ça ferait...
La deuxième salle, vous ne voyez pas car nous ne sommes pas filmés, mais Tiedel qui est de nouveau levé les yeux au ciel, je m'excuse auprès des auditrices et des auditeurs. L'idée de se chauffer, je vais arrêter avec ça, parce qu'on te rallumait et se chauffer, de réchauffer l'écho, était un peu difficile à imaginer. Mais non, Tiedel lui-même est chaleureux. Donc,
justement, les Français font beaucoup de bébés, donc ça veut peut-être dire qu'on a moins besoin de...
C'est pour ça que j'étais déjà dans le troisième sujet.
Moins besoin d'énergie nucléaire.
Restons sur le nucléaire.
que la mais c'est vrai que sur l'indépendance énergétique, les trois quarts du temps quand même, parce que là c'est un hiver particulièrement rude, mais la plupart du temps c'est plutôt nous qui vendons de l'énergie aux Italiens, aux Espagnols, aux Suisses, etc. De ce que j'en sais, maintenant je suis pas non plus spécialiste. Maintenant, donc sur l'indépendance énergétique, je pense que c'est quand même relativement précieux, parce que le jour où il y a un problème en Arabie Saoudite ou en Iran ou en Irak et que tout le monde se fâche et que du coup ça fait qu'on est moins dépendant de ces pays et que donc le jour où parce que sinon ça met dans une situation gênante du coup, parce que dès que les prix du pétrole augmentent, les prix de l'énergie augmentent, alors que l'électricité en France est pas très chère par rapport aux autres pays européens. Donc ça c'est un avantage, évidemment il y a des inconvénients aussi, mais on y reviendra peut-être plus tard.
D'accord Thierry, merci Jérémy, Alyosha et Louise.
En fait on n'est pas totalement indépendant puisqu'on commande de l'uranium à ces pays-là.
Oui mais l'uranium c'est au Niger et c'est Areva qui l'exploite, donc du coup si tu veux, comme c'est la même entreprise qui exploite l'uranium et qui fait tourner les centrales, du coup c'est moins, tu vois ce que je veux dire, alors que si tu veux en France le pétrole c'est pas forcément Total qui l'exploite, il l'achète à d'autres entreprises qui sont saoudiennes, tu vois ce que je veux dire.
Du coup mais bon, c'est quand même pas en France
de ce côté là non c'est pas en France, mais au Niger et au Canada c'est pas non plus c'est quand même moins risqué en général.
Ça va.
Ça va, c'est pas terrible non plus. Mais...
Alyosha.
Ouais, moi je voulais parler d'autre chose en fait. C'est que j'ai remarqué parce que.
Sur le nucléaire quand même, Alyosha.
Oui, bien sûr. Non, pas non plus sur.
Il est pressé, il veut parler déjà des bébés. C'est pour la fin. C'est pour la fin.
Je ne
sais pas ce qui se passe dans ce studio aujourd'hui, mais c'est-à-dire que le radiateur est également. Je pense que ça vient de là. Alors, notre ami Aaron Salvadorien vient de découvrir après la neige un objet qu'il ne connaissait pas, non volant, non identifié. Ça s'appelle un radiateur. Donc Aaron, et ici il est très chaud dans ce studio, donc c'est pour ça qu'on dit un peu des bêtises. On s'en excuse auprès de nos éditrices et nos auditeurs. S'ils sont en colère, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour dire qu'on dit trop de bêtises. Ah, surtout moi. 0952 368 531. Vous voulez parler, c'était votre plus grand fantasme depuis des années, à quelqu'un qui habite au Salvador, c'est quand même pas tous les jours, appelez-le, il est là dans ce studio, il est 12h45, nous sommes en direct, il fait presque soleil, un peu voilé. Appelez-nous au 0952 368 531, prenez un papier, prenez un crayon, prenez votre téléphone, 0952 368 531. Nous en étions à Alyosha qui voulait nous parler d'autre chose, mais pas tout à fait quand même. Toujours sur le nucléaire.
C'est-à-dire que j'avais une tante qui habitait dans un lotissement. Ouais, d'accord, ok. Ouais, on revient.
Et c'est terminé, Alyosha.
Et donc, dans certains lotissements en France, j'ai remarqué qu'à certains moments de la journée et de la nuit, bien sûr, il coupait totalement le courant. Et ça, je pense qu'on devrait le faire. Et l'élargir à autre chose que des lotissements.
Ou débrancher, vous savez, tous les appareils comme la télévision, la machine à laver, quand on ne s'en sert pas, on sait que ça consomme, c'est tout le temps en veille, ces appareils modernes, il n'y a plus vraiment d'interrupteur, on sait que si on enlève la prise, ça consomme quand même sensiblement moins.
C'est ça, et puis moi je regarde la télé, ces temps-ci, j'ai pas remarqué beaucoup de messages concernant ce genre de choses, c'est-à-dire éviter
la grippe,
les dépenses de. Oui, c'est sûr que.
Chaque chose en son temps.
Mais par exemple, en hiver, baisser la consommation de chauffage et plutôt porter des pulls.
Oui, et puis baisser d'un degré revient, je crois, quasiment à 15% de réduction sur la. Tu fais de bêtises dans ces eaux-là, c'est impressionnant. Au moins,
en plus, ça permet de moins dépenser au niveau des impôts de chauffage.
Un seul degré. C'est déjà beaucoup. Ça fait la différence, ça veut dire beaucoup. Non, je cherchais la fin de ma phrase. C'est une chanson. Un degré, ça peut paraître peu, mais en fait, ça veut dire beaucoup, surtout sur la note d'électricité. Parce que voilà. Alors, 19 degrés, on est pas mal. Bon, quand il fait très froid, c'est vrai qu'on a envie de mettre 20, 21, 22. Parfois, il y a des maisons un peu surchauffées. Oh, si, j'en connais. Et je ne vais pas parler de ma famille. Et qu'après, on va se moquer. Voilà. Mais si Louise veut qu'on parle de sa famille, je pense qu'elle n'aurait pas dû rire, car je me souviens d'une époque au début de cette émission, enfin presque au début, CCC, on avait quelques coups de fil, pardon d'ailleurs, qu'on n'a plus guère de gens anonymes, mais qui pouvaient ressembler à la famille de. Non, pas d'Alyosha.
Oui,
bon,
la dernière fois ils ont essayé d'appeler, ça n'a pas marché. Alors.
Ah, voilà, mi-technicien.
Moi, ça
mais maintenant, ça marche parfaitement. Alexandre, nous met ça même, on vous entend dans nos casques, donc c'était pas le cas avant, on a gagné en technologie grâce à Alexandre. Avant, vous entendez vaguement, là maintenant, dans le casque, vous passez dans nos oreilles. Donc on veut entendre votre voix délicieuse. 0952 368 531. Il fait chaud. Le radiateur est très 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 chaud.
Baissez
le chauffage chez vous. Allégez-vous un peu. Enfin non, c'est le contraire. Pardon. Si vous baissez le chauffage, mettez un pull en plus. C'est le contraire.
Mettez-vous sous les couvertures. Mettez-vous sous les couvertures. Café,
mais ayez le téléphone à côté quand même pour nous appeler. Louise. Arrête de tripoter le radiateur et,
c'est gênant.
Et nous t'écoutons. C'est pas gênant.
Non, je voulais dire que comparé à ce que disait Alyosha, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conscience environnementale en France, comparé aussi à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la Finlande. Comme quoi, ben, du coup, on ne pense pas du tout à faire des trucs pour la planète. On se dit que ça va bien se faire tout seul. Il y a des entreprises qui vont, enfin des organisations qui vont s'en charger. Et du coup, on ne pense pas à le faire.
C'est Trump qui pense en ce moment, que les autres vont s'en occuper.
Oui, voilà, c'est ça. Et enfin, y a vraiment, je trouve qu'il y a très peu de conscience environnementale, alors que c'est le problème majeur en ce moment. On pense, on fait passer plein de choses avant ce problème-là et il y a très peu de personnes qui s'en rendent compte. Et je ne sais pas comment on peut faire pour changer ça parce que je trouve que c'est quand même majeur. C'est la planète qui en dépend et il n'y a rien qui est fait pour. Je sais, c'est peut-être pas trop le sujet avec le nucléaire.
On en parle
mais...
beaucoup quand même. Après, entre la prise de conscience et le
passage aux actes, toujours pas. Enfin, on en parle énormément avec la COP21, etc. Mais...
Je plaisantais tout à l'heure avec notre ami Aaron, mais quand même, au-delà du chauffage, il y a bien des téléviseurs, etc. Comment ça marche ? Donc l'électricité, comment l'énergie ? C'est quoi le moyen d'énergie principal au Salvador ?
C'est l'énergie électrique, c'est ça ? Oui. Là-bas, on n'a pas l'énergie du soleil, c'est ça.
Mais électrique, comment?
Comment?
Par le nucléaire ou?
Par?
Vous achetez par des centrales nucléaires? Non, ça m'étonnerait si.
Oui.
Ah, parce que je crois que tu disais non tout à l'heure, d'accord.
Oui, c'est ça.
Mais vous avez des centrales nucléaires sur le sol?
Oui, dans les sols.
Le petit, enfin pas dans le sol. C'est une expression française. Sur le sol, le salvadorien. Au Salvador, pas dans le sol. Ça, c'est les pompes à chaleur. C'est autre chose.
Oui, on est là.
Il y a une centrale, d'accord. J'ai cru que tu disais non tout à l'heure, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le chauffage. Ma question était idiote. Il y a aussi l'énergie autre que pour se chauffer, bien sûr. D'accord.
Okay.
D'accord. Mais moins qu'en France, j'imagine, eu égard la grandeur du pays et le nombre d'habitants. Et combien d'habitants au Salvador? Combien d'habitants?
Il est environ 9 millions d'habitants.
Ah oui, quand même, d'accord.
Oui, c'est...
D'accord. C'est pas négligeable. Petit par rapport à la France, mais enfin bon. Ouais. Ils sont tous serrés. Merci Nola, de cette précision.
Oui.
Non, mais... Comme des sardines, on lui chantera la chanson à la fin, je pense qu'il la connaît pas. Je sais pas si Patrick Sébastien est arrivé jusqu'au Salvador. Vous ne voulez pas, d'accord.
J'espère pas pour eux.
Alexandre est d'accord, donc on écoutera un solo de... Allez, un duo avec moi si je suis en forme sur les sardines. Et ce sera la quatrième occasion pour qui vous avez de lever les yeux au ciel.
Non, mais...
Allez, nous écoutons Ciel.
À aucun moment, non. Simplement, non, l'énergie nucléaire, l'argument qui est mis en avant par ses défenseurs et qui est vrai, c'est que, effectivement, ça n'émet pas de CO2. Et donc, le fait de baisser sa consommation d'énergie nucléaire, ça ne change pas vraiment la quantité de déchets nucléaires qu'il y a après. Donc, ça a moins de conséquences sur l'environnement qu'une augmentation ou une baisse de la consommation d'énergie électrique. Parce que, si tu vois ce que je veux dire, si tu consommes plus, enfin d'énergie, pardon, de charbon ou de pétrole, parce
fossile.
Que si tu consommes plus d'électricité, d'énergie fossile, bah forcément, on va devoir brûler plus d'énergie, plus de pétrole ou de charbon. Donc, ça fait plus de CO2. Alors que là, plus ou moins. D'énergie nucléaire, bon, ça change pas grand chose sur l'environnement.
Évidemment, il y a pas. Radioactifs
oui, mais les déchets radioactifs.
Sécurité, qu'est-ce
oui,
qu'on peut
mais évidemment, mais parce que, mais ça ne dépend pas de l'augmentation ou de la baisse de la consommation. Il y a toujours des déchets.
Oui, mais nos moteurs vieillissants, enfin nos centrales vieillissantes, aussi... on en fait quoi? Parce que c'est aussi
Fessenheim,
c'est quand même. On voit
mais je crois que de toute façon, il y avait. Mais après, c'est toujours des sujets très compliqués parce qu'il y en a qui vous diront que.
Bah, on construit, ça coûte très cher. Mais on est reparti pour au moins 20 ans, voire plus.
Les nouveaux EPR. Bah, le problème de ces réacteurs, c'est qu'en plus, ils sont livrés en retard, ils coûtent horriblement cher. Et donc, est-ce que ça vaut le coup maintenant d'investir dans une énergie qui n'est peut-être pas... parce que le problème, c'est qu'il y a aussi le problème des réserves d'uranium. C'est vrai que, certes, il y a des mines d'uranium au Niger, au Canada, mais elles ne sont pas non plus extensibles à volonté. Donc, il y a un moment... où effectivement le coût de l'énergie nucléaire va devenir forcément plus élevé. Donc,
Donc pourquoi pas garder le parc qu'on a, jusque, parce que c'est quand même des investissements énormes. Donc des centrales qui sont faites pour durer 40 ans, bon, bah, faut les faire durer 40 ans. Y a pas de, voilà. Mais après, par contre, les centrales qui sont faites pour durer 40 ans, il ne faut pas qu'elles durent 60 ans non plus. C'est ça aussi le problème. Donc du coup, c'est pour ça que oui, mais une centrale de Fessenheim, si elle n'est pas... moi, je ne connais pas la situation de la centrale de Fessenheim, mais si elle n'est pas sûre, et si y a des problèmes qu'on ne peut pas...
Une autorité de sûreté littéraire... Oui. C'est des formations professionnelles. Autorité de sécurité nucléaire, qui est parfois un peu contesté parce qu'on se dit que peut-être elle minimise, mais bon, a priori c'est objectif et qui semble dire là quand même depuis un moment déjà
que s'il y a, s'il y a des problèmes, effectivement, il faut les régler, donc il faut la fermer. Effectivement.
Louise, on termine avec ça.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on se focalise là sur ce débat, en tout cas sur le nucléaire, etc. Mais du coup, pourquoi on passe pas aux énergies renouvelables si c'est une énergie d'avenir qui est assez intéressante parce qu'elle
créatrice
procure
d'emploi, dit-on,
créatrice d'emploi qui apporte qui permettrait de garder le capital naturel qu'on a déjà, plein de choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Parce que je sais, c'est difficile à mettre en œuvre, mais c'est aussi difficile que de construire d'autres centrales nucléaires, et c'est ça, on n'y passe
mais c'est, il faut le faire progressivement, voilà, ça se fera pas du jour au lendemain.
Mais là, on n'est pas du tout en train de
mesure,
le commencer, quoi.
Bah si, ah si, ça a commencé.
Et par quoi?
Ah bah,
on
en beaucoup, parce qu'on sait très bien que...
ça, c'est quand même, ça a quand même commencé depuis que Ségolène Royal est ministre de l'Environnement, pour pas la citer. Il y a eu quand même notamment la route solaire qui a été inaugurée l'autre jour. C'est évidemment une goutte d'eau, mais il y a quand même un effort. Et la centrale de Fessenheim va être fermée. La centrale de Fessenheim va être fermée, a priori. Donc bon, et puis on a des éoliennes offshore dans le nord de la France qui commencent à se développer, donc la transition, mais simplement ça peut pas se faire, donc il faut commencer à y réfléchir. Et puis
ça vous a fait à peu près 20 ans, et encore je suis gentil, et puis on parle de transition, donc en fait la transition elle est quand même en gros pointillé.
Oui, non, mais évidemment. Bah, ça dépend aussi des gouvernements, évidemment, malheureusement. Bon, voilà. Mais et puis il faut peut-être aussi augmenter les moyens de la recherche sur de nouveaux projets. Il y a le projet ITER dans le sud de la France qui combinerait et les avantages du nucléaire et pas ses inconvénients a priori, puisque pas de déchets radioactifs. Donc on produit beaucoup d'énergie avec moins de déchets radioactifs. Ce serait l'idéal. Bah, c'est des projets. Il est en train de se faire, et je crois que la centrale va être ouverte.
Et Nola, pour finir, vraiment sur le nucléaire, et on passe au bébé, si je puis dire.
Mais du coup, si on passait aux énergies renouvelables, on pourrait être plus, la population pourrait être elle-même plus dépendante, parce que, indépendante, parce que tout le monde pourrait avoir une petite éolienne, tout le monde pourrait avoir des panneaux solaires et tout. Alors est-ce que, je sais pas, on aurait peur que la population devienne trop indépendante? indépendante.
C'est pas. Politique d'une certaine manière pour toi. Enfin, en tout cas, ça pourrait être une stratégie.
Ça pourrait être une stratégie sur le micro, dans le micro.
D'accord. C'est juste bien sûr ces bons mots. Peut-être que comme ça coûte un peu cher, malgré tout, même si en France c'est un peu moins qu'ailleurs, de se chauffer, bah il y aura peut-être moins de gens à se chauffer. Je vais jamais y arriver. Je sais pas pourquoi je veux placer ça à tout prix aujourd'hui. Enfin, vous m'avez compris, chers auditrices, chers auditeurs, il y aura moins de gens qui auront besoin de se chauffer, car ici nous sommes en France et pas au Salvador, donc il fait pas 25 degrés toute l'année. Et bon, voilà, pardon pour cette transition moyenne, mais effectivement les dernières statistiques précisent, alors il y en aura d'autres à venir, nous sommes d'ailleurs en pleine période de recensement dans une partie de la Drôme, ça a été fait à 10 même la dernière fois, déjà quelques temps, et on sait donc que la France fait un peu moins de bébés. On était parmi les champions d'Europe, comme je disais tout à l'heure, on défiait largement en nombre de bébés par femme, qui devait être 2, quelque chose, c'est toujours quelque chose en moyenne en France par rapport aux Allemands qui étaient au-dessous et beaucoup de pays d'Europe. Est-ce que c'est un problème pour vous que la France fasse un petit peu moins de bébés? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance lourde? Est-ce que c'est parce que les gens ont peur de faire des enfants? Parce que crise économique, parce que chômage, et on revient un peu au premier sujet. Ou d'autres raisons, ou est-ce que c'est juste passager? Un problème ou pas pour vous, pour la France? Alors, économiquement parlant, parce que c'est vrai que plus il y a de gens qui travaillent, on va retrouver probablement M. Valls et M. Tiadel réunis pour M. Sarkozy, ou tous ceux qui défendent la valeur travail. Non, mais c'est vrai, de manière plus explicite que M. Hamon qu'on précitait, même si je ne crois pas qu'il soit contre le travail, mais c'est vrai que c'est une autre démarche, voilà, et qu'en tout cas, il semble présager la réfaction du travail.
Démarche qui est intéressante.
Et qu'il l'anticipe. Peut-être à tort ou à raison, c'est l'avenir qui nous le dira. Enola, donc. des bébés, pas de bébés. Ça me rappelle le sujet de la dernière fois où on avait dit projetez-vous, la dernière émission, on avait fait un spécial numéro 40. Quand ils auront 40 ans, comment ils seront? On avait parlé un peu de ça. Tu te vois, toi, avec plein de bébés?
Non.
Zéro bébé?
Ouais, pour l'instant, zéro bébé.
1,1. Zéro pour l'instant, non, je comprends bien.
Je sais pas, peut-être que les gens, ils ont un peu peur pour leur enfant, pour leur avenir. Avec la crise, comme vous disiez. Puis oui, les jeunes, ils ont du mal à trouver du boulot, apparemment. Ce qu'on dit. Donc,
on dit que la génération d'aujourd'hui et peut-être celle de dans quelques années vit moins bien que la génération d'avant. Et en France, c'est une des premières fois, on entend souvent ça, mais c'est une réalité où finalement les enfants vont être. On va avoir plus de problèmes financiers et de vie, voire de survie parfois, que les parents. Jusqu'à récemment, à chaque fois qu'on gagnait une génération, on gagnait en pouvoir d'achat et on gagnait en confort de vie. Ça semble être un peu moins vrai. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les Français ont peur? Oui, ça me rappelle le titre d'un journal télévisé il y a quelques années, « Les Français ont peur ». C'était un présentateur célèbre qui avait commencé le JT de 20h ainsi. Alors, ont-ils peur? De quoi, Alyosha? Parle-nous de ta famille, ça fera plaisir. Combien de vous dans la famille?
Non, c'est le running gag, ça va être génial. Non, mais je pense que, oui, effectivement, est-ce que les gens ont peur à cause de ce que pourrait vivre l'enfant dans les années à venir? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés par aussi la surpopulation qui est annoncée 10 milliards d'habitants en 2050
Et les réfugiés climatiques, voilà, pour refaire aussi le pont avec le sujet tout à l'heure.
Aussi, mais ça, je ne sais pas exactement. Moi, même si je me projette, je ne vois pas du tout comment je ferais. Mais... Est-ce que les gens ont
ça, on peut t'expliquer. Mais c'était sur le nombre de bébés. Pardon, Alyosha.
Décidément.
Non, mais je ne sais pas exactement quoi en penser. Je ne suis pas non plus très, très... moi, je ne suis pas très concerné parce que pas la maturité de ça. C'est...
De l'ensemble d'Alyosha n'est pas encore, bien sûr, à faire des bébés, je comprends bien. Mais en dehors de toi, tu penses que c'est ça, donc c'est la peur en fait.
Oui,
la peur par rapport à l'économie que du moment.
Les gens ont-ils peur de faire des bébés à cause de la surpopulation ou des problèmes d'emploi ou de...
En même temps, en Allemagne, ils n'en font pas beaucoup et ils vont plutôt mieux. En tout cas, on les cite souvent en exemple. Oui. Donc,
bah, d'ailleurs, ils ont été obligés d'accueillir 1 million de réfugiés pour compenser. Mais,
bien ce que
c'est
je disais,
tout à leur honneur d'ailleurs.
Cadel, puis Louise, puis Marius, puis Enola, les bébés se multiplient, si je peux dire. Vous êtes de grands enfants, des adolescents, c'est pas de vous que je parlais. Non, ça méritait pas ça. Cinquième haussement de sourcils de Tiedel.
Ah, moi je n'ai pas haussé les sourcils. Non.
Un jour il faudra prendre des photos.
J'ai été.
Bientôt, CCC, en direct sur vos téléviseurs. Alexandre, Liam et Jérémy, vous préparez ça. Bientôt nous serons en direct. Vous savez, maintenant les radios c'est comme ça. Hein. Europe 1, France Inter, RMC, ils sont tous. Des images pas de très bonne qualité,
oui, voilà,
pas la vraie télé, mais ça sera peut-être pas tout à notre honneur.
Si vous voulez, on prépare pour la prochaine fois.
On
le fera en image pour la prochaine fois et on mettra sur. Tu as Ardiwa,
on peut prendre une photo au moins, en tout cas, des photos de filmer toute l'émission.
C'est rigolo, tu mets, pour être.
Oui, pourquoi pas, faire un live total.
Pour voir nos têtes aussi.
Oui, on voit ça, je sais pas si c'est ce que les auditeurs doivent dire mieux. Vos têtes sont encore jeunes et dynamiques. La mienne, un peu moins. Nous écoutons la jeune Louise. Merci, Tiedel, tu te rattrapes.
Pardon, c'était Tiedel qui parlait. Non, mais il n'y a pas de souci, vas-y.
Vas-y, Louise. Et puis Marius, je crois. T'entends.
Je sais. Oui, c'est bon, pardon. Je pense. Qu'est-ce que je pense? Ah oui, je suis pas sûre que les personnes.
On t'écoute.
Non, je sais pas.
On négocie le.
Je suis pas sûre que ce soit vraiment une peur des personnes de faire des bébés parce que. Je sais, c'est peut-être juste une tendance. Il y a des fois où il y a des périodes où on a des tendances où la population se multiplie plus vite ou quoi, et il y a des tendances où ça ralentit, mais c'est peut-être juste naturel et il n'y a pas forcément d'événements qui viennent prouver ce ralentissement, et c'est juste naturel, il faut laisser faire.
Ça peut être passager.
Pour moi, je vois pas, je pense que les personnes ne réfléchissent pas à « Ah, merde, je vais pas faire de bébé parce qu'il va mal vivre, parce qu'il va faire tout ça. » C'est si t'as envie de faire un bébé maintenant, bah t'en fais un. Enfin, des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes.
D'accord, on va attendre la fin de l'émission, Louis.
Non, mais non. Non, mais je veux dire, on regarde pas forcément... plus loin, on se dit j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de fonder une famille. On dit pas j'ai pas envie de fonder une famille parce que bah il y aura plus tôt dans 3 ans.
On fait beaucoup de bébés au Salvador. Tu sais pas.
C'est ça que je voulais dire, que même en Salvador, à baisser la tasse
natale des bébés à cause de la crise économique. Mmh. Donc, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec Louise. Oui. Parce que, oui, on pense beaucoup à l'avenir des enfants. Ok, ouais. Même si vous avez une carrière universitaire, c'est pas assez. Salvador, je ne suis pas ici, mais on doit étudier encore plus, avoir un master et après un doctorat ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, mon point de vue, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir toujours un boulot pour bien élever cet enfant. Donc, c'est pas une chose que je vais avoir un enfant.
On ne veut pas juste le faire, mais l'élever dans de bonnes conditions et assurer un bel avenir, un avenir confortable.
C'est ça
minimum.
Exactement. D'accord. C'est ça. Penser à l'avenir du bébé, en fait.
Ouais. Mais après, il n'y a peut-être pas tout le monde qui pense comme ça. Ça, c'est des personnes qui sont vraiment très matures.
De manière optimiste, dire sur l'avenir et se dire que ça peut changer d'ici 10 et 20 ans, quoi, qu'ils soient en âge de travailler. Mais oui, Tiadel, quand tu seras ministre. Peut-être que
pas du tout.
Dans 20 ans, ministre de l'Emploi, il n'y aura pas de chômage.
À aucun moment, oui, ça doit être le pire métier de France, à mon avis. Mais bon, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Mais, honnêtement, non, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent penser à l'avenir de leur enfant, même si, voilà, en France, il y a aussi des parachutes sociaux qui font que, bon, si jamais on perdait son emploi, si jamais il y avait catastrophe, si jamais, il y a toujours, bon, on a toujours un revenu d'existence, le RSA, qui peut être augmenté si on a un bébé, etc., même si ça reste très peu. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont... C'est une peur qui est plus générale par rapport à notre... et qui, je pense, n'est pas justifiée, d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'on vive dans une période particulièrement horrible par rapport à ce qui a été dans le passé. Mais je pense que c'est plus général par rapport à l'emploi et puis par rapport au terrorisme aussi. Les gens se demandent peut-être dans quel monde mes enfants vont grandir. Mais bon, après...
À l'inverse, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que ceux qui font 6-7 enfants, il y en a de moins en moins, sont irresponsables ?
Mais non, mais après chacun fait, on peut pas juger les gens sur leur, après c'est la responsabilité de chacun, les gens sont suffisamment grands pour savoir que...
On a un auditeur, pardon Tiadel, excuse-moi de t'interrompre. Oui ? Allô ? Bonjour ?
Allô ?
Bonjour monsieur ?
Oui, c'est Baptiste, Oran, participant à l'émission il y a deux mois.
Oui, c'est vrai, mais Baptiste, oui. que fais-tu en dehors de ce studio ? D'habitude tu es parmi nous, mais c'est gentil d'appeler.
Oui, mais je suis au dernier moment aussi... J'ai pas reçu de mail, donc j'ai pas pu.
Ah, alors il y a un petit problème de communication. Désolé. Mais c'est très bien, merci d'intervenir. On t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les bébés ?
Du coup, j'étais assez d'accord avec Louise concernant l'effet de tendance. Je pense pas que ça se prolonge dans le futur. Mais si ça venait à se prolonger, ça pourrait être très grave. Parce que, avec toutes les évolutions au niveau médecine, etc., la population a tendance à vieillir. Alors si on fait encore moins d'enfants, enfin, s'il y a moins de jeunes, ça ferait encore plus vieillir la population et ça peut être vraiment grave comme au Japon et créer un peu une situation similaire au Japon.
Bah, c'est-à-dire voilà que oui, les jeunes sont paternellement jeunes et que voilà, et on leur espère l'espérance de vie la plus longue et ça peut créer d'autres problèmes après derrière, c'est vrai. Bon, et toi, tu es trop jeune pour te projeter, tu sais pas si un jour tu auras des enfants. Et
ouais, bah pour l'instant, moi je serais pas très chaud pour faire des enfants, on va
c'est
dire.
Pas très chaud, décidément, c'est le mot du jour. Entre le radiateur, je sais pas si c'est le fait qu'on est Aaron qui vient du Salvador, d'un pays où il fait 25 degrés quasiment toute l'année, qui nous met dans cet état-là, mais je pense aussi un peu le radiateur du studio. Mais Louise l'a un peu réduit.
Mais on l'a éteint, mais il marche.
Bah merci Baptiste, une autre question, non ?
Question tout court. J'aurais bien aimé m'exprimer sur le sujet du revenu universel, mais j'ai pas pu du coup. Mais...
Bah, tu peux en dire un mot, tu nous appelles, on t'écoute.
Non, mais c'est bon.
Si, mais vas-y.
Pas.
Tu es plutôt pour ou plutôt contre toi ? Plutôt Louise ou plutôt Thierry ?
Je suis plutôt contre.
Même si Louise.
Oui. Les arguments seraient un peu longs, donc je vais pas les détailler.
D'accord.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci de ton appel. Merci. Et désolé, alors pourtant, en général, les mails sont toujours les mêmes, parce qu'on envoie, j'explique les coulisses aux auditeurs, les différents sujets qui seront traités. Pour validation et pour qu'ils se renseignent un petit peu tous ces jeunes gens autour de la table, c'est pour ça qu'ils sont souvent très pertinents et tout le temps très pertinents. Et donc voilà, j'envoie avec toujours les mêmes adresses, mais peut-être qu'il y a eu un petit bug informatique, on va rectifier ça. Mais enfin, tu savais que c'est chaque premier mercredi du mois, Baptiste. Tu es à moitié pas excusé, si je puis dire. Nous sommes le 1er février, il n'y a pas mieux comme premier mercredi du mois quand même.
Ouais, c'est
le premier. Bah, la prochaine fois, rendez-vous en mars. Oui. Ça doit être de mémoire le 8 mars, si j'ai pas de bêtises. Je vous confirmerai
okay,
ça. Merci, Baptiste. Oui. Mais tu restes avec nous jusqu'à la fin, on a bientôt fini de toute
façon.
Oui,
bah oui, bien sûr.
Hors de question de quitter la radio. Tu es en train d'écouter la radio ou sur ordinateur ?
Sur le portable.
Sur le
là.
Portable, ah oui, pardon.
Et oui, une application radio.
C'est la troisième possibilité. Et tu nous entends bien sur le portable? Parce que parfois, il y a des petits soucis, malgré la grande compétence de nos grands techniciens. Bon, enfin, fabuleux. Bonne fin d'après-midi.
Merci.
Bon après-midi tout court. Ciao, au revoir. Vous avez reconnu Baptiste, hein, qui est un petit nouveau lui aussi, c'est un petit bleu comme tous les secondes qui sont ici de cette année. Je ne sais plus si du coup on a entendu Marius, non ?
Non.
Alors on t'écoute et on va peut-être quasiment terminer avec toi, à moins qu'on fasse une petite carte blanche, on avait posé ça la dernière fois sur des sujets qui vous ont concerné pendant ce mois-ci. On avait notamment une conférence hier d'un des membres du groupe Imourini, qui est un groupe corse célèbre, plusieurs millions d'entrées dans leurs concerts et qui s'occupe d'anti-violence et qui fait des conférences pour expliquer comment on pourrait pacifier les rapports entre les êtres humains. Il était au lycée hier dans le cadre des semaines de l'écologie. Marius, sur les bébés ?
Oui, moi je voulais dire que je trouve ça normal qu'il y ait une crise démographique parce que les mœurs changent, on fait moins de bébés par rapport à nos aïeux.
Alors, on en fait moins qu'avant, ça c'est sûr.
Oui, voilà.
Mais on reste quand même le champion, entre guillemets. Si
voilà.
C'est un championnat.
Oui. Mais. Pas une course quand même. Mais,
Ça se dit souvent comme ça dans les statistiques. Un champion.
Mais oui. Ce qui est sûr, c'est que. On le compare souvent aux années précédentes, mais on ne le compare pas en fonction des avancées scientifiques, de l'espérance de vie. Enfin. Je trouve que c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, puisque.
Bah, c'est des chiffres bruts, oui.
Voilà, ils sont vraiment.
Enfin, on le connaît un peu, le contexte. Oui,
voilà.
On l'a évoqué, justement.
Du coup, je trouve que la crise démographique qu'il y a, elle concorde assez bien avec les migrants qui arrivent, et du coup, ça se complète, je dirais. Et, voilà, je trouve ça vraiment.
C'est peut-être une vision plus globale, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est conscient dans la tête de chacun, mais voilà, effectivement, il y a des risques de surpopulation sur la planète, au sens large, pas que en France. Il y a le souci, c'est pas eux qui sont un souci, mais la gestion des migrants en tout cas. Et effectivement, il faut tenir compte aussi de ça.
Mais du coup, c'est
cohérent.
Ce que je disais tout à l'heure, oui, puisque l'Allemagne, Mme Merkel a accueilli, l'Allemagne plutôt que Mme Merkel, mais a elle-même accueilli un million de réfugiés, en partie pour combler son vide démographique. Donc, donc effectivement, c'est pas irréversible.
Je suis d'accord avec Marius. Les Français se sentent moins obligés de faire de bébés, entre guillemets, parce que il y a pas mal d'années, on en faisait peut-être plus parce que l'espérance de vie était moins forte et les morts à la naissance, comment on appelle ça, mort-née, étaient plus importantes. Du coup, maintenant, il y a une stabilité, on fait moins de bébés. Ah Je veux vous parler.
Le micro n'est pas ton ennemi. Mais oui, c'est vrai qu'on se parle, on se regarde, c'est bien. Mais tu peux à la fois nous regarder et regarder, pas regarder, t'approcher du micro. Oui. Donc la bouche d'un côté et le regard de l'autre. Le regard, c'est nous, parce que nous ne sommes pas encore filmés. Et le micro. Donc oui, toi, tu trouves qu'il y a une certaine logique aussi, finalement.
Et puis sinon, on fait les jeunes. Ils privilégient d'abord leurs études, peut-être. C'est comme.
Alors, on fait de plus en plus tard, ça, c'est sûr.
Voilà, c'est comme disait Aaron, je crois, dans son Salvador. Donc, oui, c'est normal, on va dire.
Oui, puis c'est normal qu'on attend d'avoir une situation qui soit fixe. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens dans l'emploi sont plus mobiles. Et donc, du coup, avant d'avoir une situation professionnelle vraiment fixe, d'avoir un CDI ou d'être titulaire dans la fonction publique, je pense que ça prend plus longtemps. Que ça pouvait le prendre avant, donc ça peut être une raison. Puis aussi tout simplement parce que les gens ont peut-être pas envie de parce que la famille c'est peut-être de moins en moins à la mode aussi.
Je pense pas quand même.
Enfin, je sais pas.
Puis c'est pour vraiment le dernier mot.
Oui. Puis peut-être aussi que justement comme tu disais, c'est au niveau des pas au niveau des démarches, mais au niveau de la prévention. C'est avant il y avait beaucoup moins de prévention au niveau contraception, etc. Et donc peut-être que maintenant ça a évolué.
C'est pas le mot parce que ça c'est plutôt pour les maladies, mais la contraception,
Oui,
ce que j'ai dit du coup.
Du coup,
avant il y en avait beaucoup moins et maintenant vu qu'on est plus prévenu, on est plus, on dit pas contraceptionné,
on
dit
qu'on prévenu. On sort d'avoir moins de bébés que ce qu'on en avait un peu, sans avoir forcément toujours choisi.
Oui, c'est ça. Maintenant c'est vraiment un choix. Si on n'en veut pas, on peut ne pas en avoir. Avant c'était beaucoup plus difficile là-dessus. Voilà.
Oui, c'est ce qu'on peut faire soi-même.
Vraiment pour terminer, je disais tout à l'heure que l'emploi est plus mobile, mais la famille aussi. Donc du coup, c'est les familles sont peut-être un peu plus instables. Souvent les les gens divorcent peut-être plus qu'avant, etc. Donc du coup, il y a ça aussi qui fait que les gens ont moins de temps pour faire des enfants ensemble.
Pour, d'accord.
Part.
Bien ce que je craignais. Enfin non, c'est pas le mot. J'attendais ta conclusion avec
intérêt.
Ils ont moins de temps pour faire des bébés, fabriquer des bébés.
Mais
voilà. Si j'avais dit ça à Diadel il y a 5 minutes, il aurait encore levé les yeux au ciel. Ça me fait plaisir que c'est lui qui l'ait dit. Mais je comprends le raisonnement. Famille éclatée, voilà, divorce plus nombreux, etc. Mais enfin, en général, les personnes rencontrent d'autres, donc maintenant c'est l'ère des demi-frères, des demi-sœurs.
Oui, mais souvent, comme c'est plus tard, après les gens sont moins.
C'est vrai. Alyosha, il faut vraiment qu'on arrête si on veut une petite carte blanche, vas-y, sur ce sujet-là.
D'accord, ok.
Non, mais vas-y.
Non, mais je pense peut-être que s'il y a justement au niveau des contraceptions et tout ça, peut-être que certains ont encore ce souvenir du sida, etc. Je ne sais pas encore, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler ces temps-ci du virus du sida.
On a parlé ici même, le 1er décembre, décembre.
Justement, s'il y a des préventions contre ça, ça peut être utile. Mais voilà, s'il y a juste des gens qui se sont dit « Oh, j'ai pas envie d'attraper le sida » et « Oh, il faut faire des tests » et « Oh,
enfin, à l'intérieur d'un couple, quand même, ça peut arriver, bien sûr, parce qu'il y a des gens infidèles,
mais
on espère qu'ils se protègent, les infidèles.
Si on commence à être paranoïaque de l'autre,
le raisonnement par rapport au bébé. En général, dans un couple, il n'y a pas d'obligation de faire de bébé non plus, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Quand c'est un choix, c'est pas un problème. Et puis, il existe l'adoption aussi, éventuellement. Donc, petit coup de cœur, petit coup de gueule, je sais pas, soit sur la conférence qu'on a entendue hier, c'est peut-être compliqué de résumer ça en une minute, mais ou sur un film, un livre, voilà. Vous êtes partisans de la non-violence ? Oui, tous autour de la table, c'est pour ça qu'on est là, pour à la fois discuter sérieusement, plaisanter aussi, ça n'empêche pas, et parler des choses sérieuses, sans se prendre au sérieux, c'est un peu l'adage de CCC. Oui, Louise, car bientôt on va être coupé, parce que les techniciens ne sont pas communs.
Très rapide.
Ils nous ont dit 13h15 et 13h14, dépêche-toi.
Non, mais c'était pour dire juste une chose, c'est que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon amoureux, du coup je voulais dire.
Allons bon, ah bah,
et
j'adore,
voilà,
cette
c'est tout,
jeune
non, mais c'est parce qu'il, non,
tout
mais c'est
pas
ça, c'est qu'il nous écoute.
Bon, donc, Alyosha, ton amoureux, c'est un scoop.
Mais non.
Je n'ai rien suivi à l'histoire. Pardon. Alyosha n'est pas l'amoureux de Louise, je répète. Alyosha n'est pas l'amoureux de Louise.
Non,
moi je ne sais pas qui est cet amoureux, mais ça ne nous regarde pas. Bon amoureux, je tiens.
Non, mais il écoute normalement, mais je ne sais pas s'il écoute.
Tu veux pas donner son prénom ? Ça reste confidentiel. Il s'appelle Clovis. Bonjour Clovis. On ne le connaît pas. Tu nous le présenteras, tu nous l'amèneras ici. Et nous, on décidera au nom de l'équipe de CCC si tu peux le garder ou pas, parce que. Et envisager les bébés pour plus tard.
On se calme doucement.
Son âge, ses bonnes mœurs, sa bonne morale. Attention, on ne te laisse pas entre les mains de n'importe qui. Si les parents de Louise nous écoutent, c'est vrai.
Attention.
Enfin, elle est encore jeune, donc on veut qu'elle fréquente des gens bien. Mais c'est une jeune fille bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fréquente pas quelqu'un de bien.
Merci
beaucoup. Tu as cherché la bagarre aussi.
Ouais.
Bon anniversaire à ce mystérieux Clovis. amusez-vous bien, faites des bébés ou pas, vous avez un mois. Et merci beaucoup à Aaron d'être venu aujourd'hui. Fais peut-être des bébés en France, je ne sais pas. Ça peut être sympa. Un franco ou une franco. Salvadorienne, ça peut être sympathique. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Restez fidèles au programme de Radio Diwa. Il est 13h15, on est à l'heure. Rendez-vous le 8 mars. Et merci à toutes donc d'avoir été présents, comme d'habitude, sauf Baptiste, mais on l'a eu par téléphone, donc finalement tout le monde était là. Bonne journée.
Bonne journée.
Restez fidèles à la Radio Diwa. Et même au-delà.